Un petit enfant s'est avancé sur la glace qui recouvrait le lac et je savais que son épaisseur était insuffisante pour soutenir son poids. J'avais donc le choix entre l'avertir pour l'empêcher de tomber à l'eau ou bien jouer à l'indifférent et le laisser faire. Mais comme je possédais une connaissance qu'il n'avait pas, ma responsabilité morale était engagée et si je ne l'avais pas assumée, je me serais rendu coupable d'un acte malveillant envers cet enfant. Je continue à lire dans le chapitre 4 du livre du prophète Osée. « Oui, mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. » Verset 6. Il est probable que ces prêtres n'avaient pas été nommés à leur fonction par le roi Jéroboam II, mais étaient légitimes, descendants de la famille d'Aaron, premier grand prêtre. Ces hommes seuls avaient le droit d'exercer le sacerdoce devant l'Éternel et ils étaient fort respectés par le peuple. Or, l'une des fonctions des prêtres était justement d'enseigner le contenu de la loi qui se trouve dans les livres de Moïse. En effet, il est écrit « Moïse mit cette loi par écrit et la confia aux prêtres. Il leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, au moment où commencera l'année de la remise des dettes, lors de la fête des cabanes, vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à révérer l'Éternel, votre Dieu, à obéir à toute cette loi et à appliquer toutes ses ordonnances. » Quand le roi Josaphat monta sur le trône, il envoya des lévites et des prêtres dans tout son territoire et le texte dit qu'ils enseignèrent en Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda pour enseigner le peuple. Fin de citation. Après son retour de l'exil babylonien, le peuple était sous l'autorité du prêtre Esdras, dont il est écrit qu'il prenait grand soin d'étudier la loi de l'Éternel et de l'appliquer, ainsi que d'enseigner les lois et le droit aux Israélites. Si, sous le règne de Jéroboam II, le peuple était tout orienté vers l'idolâtrie, c'était en grande partie la faute des prêtres qui n'avaient pas fait leur devoir. En conséquence, ils subiront un double châtiment, l'un contre leur personne et l'autre contre leurs enfants, qui n'hériteront pas la prêtrise de leur père puisqu'ils périront ou seront déportés par les Assyriens. Je continue le texte. « Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. » Verset 7. Ce passage pourrait bien s'appliquer au peuple, car plus ils devenaient prospères et plus ils se comportaient mal. Cependant, selon le contexte, ce sont encore les prêtres qui sont visés. Plus ils devenaient nombreux et plus les transgressions de la loi de Moïse devenaient graves. Comme ces prêtres servaient les fausses divinités des sanctuaires du roi, ils participaient au péché du peuple qui venait adorer les idoles et se livrer à des pratiques abominables. En fait, les prêtres se conduisaient aussi mal que les Israélites ordinaires, mais à cause de leur position d'autorité, leur faute était plus grande que celle des petites gens. Ces prêtres me font penser aux pasteurs et évangélistes qui, à une époque, ont défrayé la chronique parce qu'ils s'étaient fait prendre en galante compagnie, ainsi que certains prêtres catholiques qui, eux aussi, ont eu des écarts sexuels divers et variés. À cause de leur faute, les prêtres d'Israël perdront l'honneur dû à leur rang. Et effectivement, quand les Assyriens ont vaincu le royaume des 10 tribus du Nord, ils ont déporté tous ceux qui avaient une quelconque position d'autorité, dont les prêtres, mais ils ont permis aux plus pauvres du peuple de rester dans le pays. Je continue. Les prêtres se repaissent du péché de mon peuple et leur désir se porte vers ses iniquités. Verset 8. Les prêtres étaient des profiteurs qui tiraient parti de leur fonction d'une manière scandaleuse. En effet, comme une partie de leurs revenus provenait des offrandes faites aux fausses divinités, pour arrondir leur fin de mois, ils encourageaient le peuple dans la voie de l'idolâtrie. Je continue. Aussi, il en sera des prêtres comme des gens du peuple. Je les ferai payer pour leur conduite. Je rendrai à chacun selon ce qu'il a fait. Ils mangeront sans être rassasiés. Ils se prostitueront mais n'auront pas d'enfants. Versets 9 et 10. Osée fait ici allusion au repas qui accompagnait les orgies organisées autour de la prostitution sacrée. Il énonce de nouveaux châtiments contre les prêtres, premiers responsables de la situation morale dépravée qui régnait en Israël Nord. Le châtiment des prêtres suivra le principe de la stricte rétribution, c'est-à-dire qu'il sera directement proportionnel à la gravité de leur faute. Non seulement ils ne profiteront pas de leur gain mal acquis, mais leur participation au rite de fertilité avec les prostituées sacrées n'aboutira à rien. Alors que les prêtres espéraient une descendance nombreuse, leurs enfants disparaîtront, tués ou emmenés en exil par les Assyriens. Je continue. « Car ils ont abandonné l'Éternel pour s'adonner à la prostitution. » Le vin et le mou leur font perdre la raison. Versets 10 à 11. Le vin vieux et le mou étaient utilisés pour stimuler les sens et parvenir à l'état de délire sacré très prisé par les Cananéens. La culpabilité des prêtres est donc très grande, car non seulement ils se sont détournés de l'Éternel, mais ils ont remplacé son alliance par la prostitution sacrée. Je continue. « Ce sont ces dieux de bois que mon peuple consulte, et voilà que c'est son bâton qui lui répond, car un vent de prostitution les fait errer, ils s'égarent loin de leur dieu en se prostituant. » Verset 12. Au lieu de consulter l'Éternel leur dieu, les Israélites pratiquaient une forme de divination qui est un peu comme le jeu du Mikado. On jetait des bâtons à terre et leur position était censée prédire l'avenir, ce qui permettait de prendre la bonne décision. Les Israélites étaient habités par un esprit de prostitution qui les poussait à offrir un culte aux idoles, et surtout Baal, qu'ils adoraient dans le but d'obtenir la fertilité du sol, des animaux et des femmes. Je continue. Ils vont offrir des sacrifices au sommet des montagnes et brûler des parfums sur les collines, sous le chêne et le peuplier, et sous le térébin dont l'ombrage est si doux. Voilà pourquoi vos filles vont se prostituer, pourquoi vos belles filles commettent l'adultère. Verset 13. Les Israélites édifiaient des sanctuaires sur tous les sommets des collines, et ils transformaient l'ombre des grands arbres en lieu sacré. Je lis un passage. Ils avaient dressé des stèles et des poteaux sacrés pour la déesse Asherah sur chaque colline élevée et sous chaque arbre verdoyant. Et là, sur ces hauts lieux, ils avaient fait brûler des parfums comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Ils s'étaient adonnés à des pratiques coupables par lesquelles ils avaient irrité l'Éternel. Ils avaient rendu un culte aux idoles, alors que l'Éternel leur avait ordonné de ne pas le faire. Fin de citation. Parce qu'ils avaient rejeté la révélation que l'Éternel leur avait donnée, les Israélites, devenus incrédules à l'égard du Dieu unique et vrai, étaient devenus crédules. Alors, comme les animistes, ils adoraient la nature. L'apôtre Paul écrit qu'on reconnaît l'empreinte de Dieu dans sa création, et donc que les hommes n'ont aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes, et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Le prophète Osée dit que l'idolâtrie explique pourquoi vos filles vont se prostituer, pourquoi vos belles filles commettent l'adultère. Les fausses croyances religieuses conduisent à la déchéance morale. Les femmes israélites s'accouplaient avec des hommes prostitués et les jeunes filles aussi, offrant ainsi leur virginité aux idoles. Ces pratiques abominables qui avaient pour but d'assurer la fécondité de la terre, des hommes et des bêtes, étaient monnaie courante chez les Cananéens. Pour cette raison, un texte de la loi de Moïse ordonne « Il n'y aura pas de prostituées sacrées parmi les filles d'Israël, ni d'hommes qui se livrent à la prostitution sacrée parmi les Israélites. » Mais dans un texte de l'Ancien Testament, on lit « Il y eut même dans le pays des hommes et des femmes se livrant à la prostitution sacrée. » Le peuple reprit toutes les pratiques abominables des nations païennes que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. » Fin de citation. Je continue le texte. « Je ne punirai pas vos filles pour leur prostitution et vos belles-filles à cause de leurs adultères, car les hommes aussi vont à l'écart avec des courtisanes et avec des prostituées sacrées, ils partagent leurs sacrifices. » Ainsi court à sa ruine un peuple sans intelligence. Verset 14. Tout le monde y allait de bon cœur. Les femmes, mais aussi leurs pères et leurs maris, qui fréquentaient non seulement les prostituées sacrées, mais aussi les courtisanes, c'est-à-dire les prostituées ordinaires. Tout le peuple était insensé et sans discernement, c'est-à-dire dans les ténèbres morales et spirituelles. Mais la vraie tragédie d'une telle situation est que les gens qui ne sont pas éclairés par Dieu n'en sont généralement pas conscients. Ils ressemblent aux hommes que décrit le philosophe Platon dans le mythe de la caverne. Ayant toujours vécu au fond d'une grotte avec pour seule lumière un grand feu, leur réalité se compose des ombres que projettent des objets. Ils ne savent pas qu'ils sont dans les ténèbres et que leur vie est misérable, comparé à ce qu'elle serait à l'air libre, au soleil et sous un ciel d'azur. Les Israélites ne seront pas jugés à cause de leur prostitution, mais parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Ce rejet de Dieu est à la racine de leur idolâtrie et des pratiques abominables qui l'accompagnent. Dans le même ordre d'idées, ce n'est pas le fait d'être pécheur et de mal agir qui entraîne le châtiment éternel, mais c'est de ne pas accepter la perche que Dieu nous tend en Jésus, notre refuge et sauveur. Je continue le texte. « Si tu te prostitues, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable, n'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven, et ne jurez pas en disant « L'Éternel est vivant ». Verset 15. Le prophète pense que l'heure est trop avancée, qu'Israël Nord est désormais trop corrompu pour se repentir. Alors il se tourne vers Juda, le royaume du Sud qu'il voudrait au moins pouvoir sauver du jugement divin. Gilgal est un sanctuaire situé dans la plaine du Jourdain, proche de la ville de Jéricho. Son emplacement a été découvert en 1865 dans une colline. Gilgal fut le premier campement des Hébreux après leur traversée du Jourdain. C'est aussi là que le peuple avait été circoncis et avait célébré la première Pâque dans le pays de Canaan. Mais cet endroit, comme bien d'autres, était devenu un site d'idolâtrie pour Israël Nord. Beth-Aven signifie littéralement « maison de néant » ou « de méchanceté ». Comme le prophète Amos avant lui, Osée donne le surnom de « maison de néant » à Bethel, qui veut dire « maison de Dieu ». C'est le patriarche Jacob qui avait appelé ce lieu Bethel, parce que c'est là que l'Éternel lui était apparu. Mais plus tard, le roi Jéroboam Ier y fit installer un veau d'or. Osée demande à ses concitoyens de ne pas dire « l'Éternel est vivant » parce que c'était une formule solennelle de serment et un acte d'adoration réservé à l'Éternel seul. Or, les Israélites, qui avaient rejeté le Dieu de leur père, l'appliquaient au veau d'or et aux idoles, même à Baal. Comme je l'ai déjà dit, l'incrédulité des Israélites les ayant rendus crédules, la plus grande confusion régnait dans leurs esprits. Je continue le texte. Parce qu'Israël a été rétif comme une génisse rétive, l'Éternel le fera paître comme un agneau dans de vastes plaines. Verset 16. Le mot rétif veut dire qu'il s'arrête et refuse d'avancer. D'habitude, on l'utilise pour un animal qu'on essaye de faire monter dans un véhicule. Peut-être avez-vous déjà été témoin de la scène. En tout cas, ça vaut le détour. Le scénario est bien rodé. L'éleveur décide d'emmener quelques-unes de ses bêtes au marché. Il arrive donc avec son camion à bestiaux, installe un plateau qui fait pont jusqu'à l'arrière du véhicule. Ensuite, il va chercher les animaux. Les premiers entrent dans le camion sans problème. Puis, il y en a un qui commence à monter quand soudainement, en plein milieu du plateau, il semble comprendre que cette histoire sent le roussi. Alors, il se plante là sans bouger et il n'y a pas moyen de le faire monter, ni descendre d'ailleurs. Ce manège peut durer longtemps et même se compliquer parce que si l'animal reste cabré, il commencera à redescendre lentement en glissant. Cet animal rétif décrit les Israélites du Nord qui étaient acariâtres et qui persistaient à refuser de revenir à l'Éternel. Mais, indirectement, Osée lance aussi un avertissement à Juda afin qu'il ne se comporte pas de cette manière. L'Éternel va faire paître Israël nord comme un agneau dans de vastes plaines, c'est-à-dire en terrain découvert qui n'offre aucun refuge. En d'autres mots, Dieu ne conservera plus son peuple dans sa bergerie, mais lui retirera sa protection et le placera dans une situation où il sera la proie de ses ennemis. Je continue. Le peuple d'Éphraïm s'est lié aux idoles, qu'il aille son chemin. Verset 17. Éphraïm est mentionné 36 fois dans le livre d'Osée. C'était l'une des principales tribus du royaume du Nord et une autre appellation pour l'ensemble politique des 10 tribus qui se donnaient le nom d'Israël. En réalité, c'était une nation bâtarde parce qu'elle était née d'une scission malheureuse avec Juda, le vrai peuple de Dieu. Ce royaume des 10 tribus est tellement lié aux idoles que son état spirituel est désespéré. Alors, dit le prophète, comme on ne veut plus rien faire pour lui, qu'il poursuive son chemin vers le jugement. Ce qui est arrivé à Israël Nord, puis plus tard à Juda, peut également se produire pour n'importe quel individu. En effet, il est malheureusement facile à quelqu'un de s'endurcir vis-à-vis de Dieu au point où le Saint-Esprit cesse tout appel. Et alors ce n'est plus qu'une question de temps avant que ne tombe l'épée de Damoclès, avant que cette personne soit irrémédiablement jugée. Je continue le texte. A-t-il cuvé son vin? Le voilà qui se vautre dans la prostitution, et ses chefs sont épris de ce qui fait leur honte. Verset 18. Le mot pour chef est littéralement « bouclier », ce qui met l'accent sur le rôle protecteur que devraient remplir ces personnes au placé. Dans plusieurs passages des psaumes, Dieu est décrit comme un bouclier pour son peuple. Je lis un exemple. L'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'accusation du prophète contre Israël Nord se termine par une nouvelle référence aux orgies, c'est-à-dire à l'ivrognerie et la débauche que pratiquait le peuple dans son ensemble, mais aussi les chefs tant religieux que politique. Par conséquent, il est évident que les responsables d'Israël Nord n'assumaient pas leurs devoirs. Par contre, ils profitaient un maximum de leurs fonctions puisque les scandales étaient leur pain quotidien. L'état d'esprit de ces dirigeants indignes me fait penser à la situation présente de notre pauvre monde et au trait de génie de Salomon quand il a dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera ». Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Fin de citation. Je finis le chapitre 4. Le vent l'a enveloppé avec ses ailes. ils connaîtront la honte à cause de leur sacrifice. Verset 19. C'est un vent de tempête, une tourmente provoquée par les armées assyriennes qui a enveloppé Israël nord. Le prophète utilise un temps du passé pour indiquer que le jugement du royaume des 10 tribus est tellement certain qu'il le voit comme un fait accompli. Une fois exilés, les Israélites, se souvenant des sacrifices qu'ils offraient aux idoles, réaliseront enfin qu'ils étaient vains, puérils et inefficaces. Alors, et conformément à la culture orientale, leurs visages se couvriront de honte. C'est aussi l'expérience tragique de tous ceux qui entrent dans l'éternité et qui ont rejeté le salut que Dieu leur offrait en son Fils, Jésus-Christ.